Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. L'histoire en a fait un peuple dispersé à travers le monde. Originaires du Nord-Caucase, les Tcherkesses ont été contraints à l'exil en 1864 après l'invasion de l'armée tsariste. Beaucoup sont alors partis s'installer dans l'Empire ottoman, notamment en Syrie. Et dès les années 1990, le démantèlement de l'Union soviétique a incité des Tcherkesses à revenir. Une dynamique qui s'est intensifiée en 2011 lorsque la guerre a éclaté en Syrie. Dans le Caucase, la communauté se mobilise désormais pour organiser leur retour. Aujourd'hui, il serait environ 700 000 à vivre en Russie. Étienne Bouche est allé à la rencontre de familles revenues sur la terre de leurs ancêtres dans le Nord-Caucase.
Nalchik a conservé de nombreux sanatoriums. Asker Bora se rend régulièrement dans l'un d'entre eux pour rendre visite à ses résidents. En 2015, Asker a créé une organisation destinée à faciliter le retour des Tcherkesses de Syrie.
À ce moment-là, les combats étaient au plus fort. Nous avons alors décidé de créer cette organisation. Nous savions qu'il y aurait un afflux de compatriotes qui décideraient de rentrer à la maison. Quand les premiers rapatriés sont arrivés, plusieurs sanatoriums de la ville ont été mis à disposition. Depuis, la plupart se sont dispersés, se sont installés dans une maison ou un appartement. Aujourd'hui, il ne reste que quelques familles dans ce sanatorium.
On le croirait volontiers désaffecté. Pourtant, le sanatorium continue de fonctionner, fréquenté par des sportifs locaux et des Ukrainiens de l'Est. L'un des bâtiments a été mis à disposition des rapatriés. Ils sont une quarantaine à occuper les lieux.
C'est dans ce bâtiment-là que vivent les rapatriés, au rez-de-chaussée et à l'étage. Voici le couloir. Ils sont répartis sur les deux niveaux. Bon, comme vous le voyez, les conditions ne sont pas... Notre République n'a pas les moyens de financer, car il en faut aussi pour les locaux. Ce sont des subventions fédérales qu'il faudrait.
Dans des sacs en plastique, du riz, du sucre, du café ou encore des dattes, des provisions déposées par des bénévoles de l'organisation, mais aussi par des citoyens ordinaires. Au fond du couloir, une silhouette de femme se dessine dans l'obscurité. Dans sa petite chambre, Samira nous sert le café. Asker endosse le rôle d'interprète et traduit ses propos en russe. Cette femme de 66 ans était directrice d'école à Damas. Elle a longtemps hésité à partir, ne pouvant se résoudre à abandonner sa situation. C'est la guerre qui fut l'élément déclencheur. Sa vie à Nalchik ne ressemble pas à celle qu'elle menait en Syrie, mais elle évoque avec émotion son retour sur la terre de ses grands-parents. Sur le marché, elle parle en tcherkesse avec les locaux. Asker en a bien conscience, les rapatriés ne peuvent compter que sur l'aide apportée par la communauté. Son organisation ne reçoit aucun soutien financier de l'État. Mais les conditions d'accueil ne sont pas les mêmes partout. Dans le Caucase, les Tcherkesses vivent dans différentes républiques, autant de divisions administratives artificielles héritées de l'Union soviétique. Dans la République d'Adygé, les rapatriés bénéficient du soutien d'entrepreneurs locaux, notamment celui de Khazret Sovmen, homme d'affaires et ancien dirigeant de la République. Dans le village de Panakhes, un nouveau pâté de maison est sorti de terre ces dernières années. Une centaine de Tcherkesses de Syrie s'y est installée. La famille Abida y a commencé une nouvelle vie. Nart a abandonné son salon de barbier pour devenir fermier. Son frère floque des t-shirts dans la grande ville de la région. Dans la campagne de l'Adygé, leur sœur Barina peine à trouver sa place.
En Syrie, j'étais dans l'humanitaire avec les Nations Unies. Je travaillais avec des réfugiés. Et c'est moi qui suis réfugiée maintenant. Du coup, je sais très bien ce que cela signifie. Les 2-3 premières années ont été très difficiles. Nous vivions sans ressources financières, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, comment trouver du travail. Je ne parle pas de moi, mais de tous les Syriens qui sont ici.
En faisant valoir leur ascendance autochtone, les arrivants de Syrie parviennent généralement à obtenir un passeport russe. Mais une mauvaise maîtrise du russe est un critère bien souvent rédhibitoire. Elle constitue l'un des principaux obstacles à l'intégration. Baresbaï est le neveu de Barina. Il a 24 ans, est arrivé en 2011 et alterne les petits boulots. L'été dernier, il s'est marié avec une tcherkesse locale.
Aujourd'hui, les temps sont difficiles en Russie. Beaucoup de personnes sont au chômage. Quand une offre d'emploi apparaît, 500 personnes sont sur le coup. Mais en ce qui me concerne, même s'il y avait demain en Syrie une trêve, voire la paix, je resterai ici, car je suis arrivé avant la guerre. Je suis chez moi ici. Les jeunes comme moi ont appris le russe, alors pourquoi on retournerait là-bas? Nous avons toujours rêvé de revenir sur notre terre. Nous sommes maintenant dans notre patrie.
Pour les représentants de la communauté tcherkesse, le retour de la diaspora est un enjeu démographique et culturel. La guerre qui a opposé les tcherkesses et l'armée russe constitue un traumatisme puisqu'il a entraîné la quasi-disparition de ce peuple dans le Caucase. À l'étranger, certains membres parlent de génocide. En Russie, la prudence est de mise. Ramazan Tlemeshok en parle avec beaucoup de précaution. Il dirige l'association des tcherkesses à Maïkop, capitale de la République d'Adygée.
Il ne s'est pas écoulé suffisamment de temps pour oublier. 150 ans, deux générations seulement. Dans mon enfance, je discutais avec mon grand-père qui était né ici. Il me parlait de notre patrie, du nom de famille qu'il portait alors, du village où il vivait. Quant à la reconnaissance de ce qu'il s'est passé, je me réfère au discours de Boris Eltsine qui figure dans notre journal. Il a reconnu les faits et en tant que premier personnage de l'État, il a demandé pardon. Cette guerre terrible a eu lieu et on ne pourra pas l'effacer de l'histoire.
Selon cette association, 6000 tcherkesses de Syrie ont obtenu un visa russe depuis le début de la guerre. 3000 sont restés dans le Caucase, l'autre moitié est partie en Europe en transitant par la Russie. Avec le développement d'Internet, la diaspora est aujourd'hui très active. Une unité retrouvée qui, en Russie, nourrit l'espoir de recréer la patrie des ancêtres.
Maîtriser l'eau, une question de survie pour les Néerlandais alors qu'un quart de leur territoire se situe sous le niveau de la mer. Alors du 17 au 23 juin prochain, Amsterdam organise des rencontres pour rendre la ville plus résistante au changement climatique. Et il ne manque pas d'inventivité pour affronter le problème et d'abord créer une bière brassée à l'eau de pluie. Et c'est le reportage de Juliette Rangeval.
Le jour se lève sur les canaux du centre historique, dans une ruelle, la brasserie de Prahl. Pas encore de clients à cette heure. En revanche, une forte odeur de houblon flotte dans l'air. L'équipe est déjà au travail pour préparer, embouteiller tous les crus maison. Et notamment une spécialité, la bière brassée à l'eau de pluie. De l'eau prélevée tout à côté, comme l'explique Thomas Gesink, qui a imaginé cette bière à l'eau de pluie avec un ami.
Nous sommes à l'extérieur de la brasserie, dans une petite allée près des canaux d'Amsterdam. Et nous essayons d'installer des systèmes pour filtrer l'eau de pluie et la récolter le plus près possible de la brasserie, comme ils le faisaient dans les temps anciens avec les églises. Comme vous pouvez le voir, il y a tout un système de gouttières qui part du toit. Quand il pleut, cela remplit le réservoir d'une capacité de 1200 litres. C'est pas mal, ça n'en a pas l'air, mais ce n'est pas mal. C'est de l'eau qui ne va pas dans le système d'égout. Ensuite, cette eau, on va la pomper dans la brasserie, la filtrer. Ça prend 2 heures environ.
2 heures et un succès commercial. Mais faire de la bière à l'eau de pluie, ce n'est pas seulement une idée marketing.
L'idée de brasser de la bière à l'eau de pluie, c'est que nous pensons qu'il y a un sujet dans les grandes villes où il est difficile de faire face à de fortes précipitations. L'une des solutions, c'est de capter l'eau directement. On peut tout à fait l'utiliser pour boire, nettoyer. C'est vraiment dommage de la laisser aller dans le réseau de distribution d'eau quand ce n'est pas nécessaire. Ça permet à la ville de faire des économies et ça évite les inondations. Chacun peut récolter de l'eau pour son usage, pour jardiner ou faire sa bière.
L'eau est partout à Amsterdam, maîtrisée, canalisée, mais toujours prête à déborder et à provoquer des dégâts. Et le dérèglement climatique ne fait qu'accentuer le risque d'inondation. À quelques centaines de mètres de là, le Pakhuis de Zwijger, un ancien entrepôt réhabilité pour accueillir notamment des réunions publiques. Ce jour-là, habitants, architectes, ingénieurs sont invités à débattre, à trouver des solutions pour maîtriser l'eau. Parmi eux, il y a Daniel Goodblood. Il dirige le programme Rainproof, une idée née après les inondations qui ont dévasté l'Europe en 2011, qui ont touché notamment la ville de Copenhague au Danemark. Amsterdam s'est alors rendu compte qu'elle pourrait être frappée à son tour.
Sommes-nous vulnérables face à de tels événements? La réponse est oui, mais la réponse ne consiste pas à augmenter le réseau d'égouts ou de canaux. La solution, c'est plutôt de retenir l'eau là où elle tombe. Donc, dans chaque pâté de maison, chaque parc, chaque rue, chaque jardin, partout en ville. Donc, retenir l'eau, puis plus tard, la laisser s'écouler doucement dans le système. C'est comme cela que ça fonctionne. Et bien sûr, cela, ce n'est pas Waternet, la compagnie des eaux, qui s'en occupe. Eux, ils gèrent le réseau des égouts, le système des canaux. Alors, ils ont eu l'idée de mettre en place une plateforme qui réunisse tous les intervenants et leur permette de travailler ensemble à construire une ville à l'épreuve de la pluie dans le futur. City which
will become rainproof in the future. Waternet, c'est la compagnie des eaux d'Amsterdam. Ce type d'initiative permet à la ville de faire de substantielles économies. So we're not going to
spend. On ne va pas dépenser des milliards pour des solutions. On va transformer la ville petit à petit. Donc, à chaque fois qu'il y a des travaux de rénovation dans une rue, un parc ou une maison, un toit, il faut penser à l'adaptation face au dérèglement climatique. Cela minimise les coûts des travaux et cela permet aussi de transformer la ville.
Un surcoût estimé entre 2 et 5% seulement.
Les Tchèques ont poussé l'idée de la frugalité encore plus loin. Ces grands amateurs de bière, mondialement connus pour leur technique de brassage, ont décidé d'utiliser des eaux usées, recyclées dans la fabrication. L'essai semble avoir été concluant et pourra en inspirer plus d'un, à l'heure où le pays est lui aussi touché par la sécheresse ces dernières années. Alexis Rosenzweig.
Erko, c'est le nom de cette nouvelle bière fabriquée dans une petite brasserie de la région de Bohême. Une région connue pour son houblon à l'arôme incomparable. Élément essentiel, l'eau utilisée pour la fabriquer a été purifiée et recyclée dans une station d'épuration de la capitale, Prague. D'après le maître brasseur, personne ne peut faire la différence entre Erko et une bière fabriquée avec de l'eau normale. Et force est de constater que les Tchèques s'y connaissent en la matière. Il s'agit des principaux producteurs, mais surtout ce sont les plus grands consommateurs de bière au monde. Le processus à partir d'eau usée a déjà été testé aux États-Unis, mais ce serait une première en Europe, où il s'agit d'une coopération internationale. Le maître brasseur est tchèque, le nouveau propriétaire de la brasserie est allemand, et la société spécialisée dans le traitement des eaux usées appartient à un groupe français. Pour l'instant, la petite brasserie du village de Čižova a produit 15 hectolitres de ce breuvage très remarqué par les médias locaux. Des négociations sont en cours pour augmenter cette production. La gestion de l'eau devient un problème sérieux avec les années en Tchéquie, où toutes les cultures, dont celle du houblon, sont de plus en plus touchées par la sécheresse. La bière Erko pourrait servir de modèle écologique. Seul bémol, l'idée de brasser cette bière d'un type nouveau est venue au cours d'une partie de golf, un sport souvent critiqué pour la consommation excessive d'eau qu'il entraîne. Long time ago, we're back in history. When there was a drink, was nothing but cups of tea. Along came a man by the name of Charlie Mutz. And he invented a wonderful drink and made it out of hops. He must have been.
En Angleterre, on se bat plutôt contre la fermeture des pubs et on défend évidemment la bonne bière. 88 millions de pintes ont été bues rien qu'en 2017. L'un des organismes chargés de la protection de la qualité et de la boisson, c'est CAMRA, la campagne pour la vraie bière. Sauf que cet organisme, qui est né dans les années 70, n'est plus à la page, selon les jeunes bobos hipsters qui ont une autre idée de la bière de qualité, Marie Billon.
C'est une bataille de mousse qui tourne au vinaigre. Les jeunes amateurs de bière n'ont pas du tout la même idée que leurs aînés de ce qu'est une bonne cervoise tiède. Il y a près de 50 ans maintenant, la campagne pour la vraie bière a décidé de défendre la vraie bière et a donc entrepris d'en donner une définition. Elle doit aller directement de la barrique au verre, car la levure doit vivre dans son tonneau. Et surtout, surtout, elle ne doit pas être contaminée par du dioxyde de carbone. Le but était de séparer la bière qui a du goût de celle plus insipide. Mais les tenants de la real ale, comme on dit publiée en anglais, n'avaient pas prévu que d'ici une quarantaine d'années, leurs enfants seraient devenus des férus de craft beers, ces bières dites artisanales. 500 millions de pintes ont été bues l'an dernier. Mais le problème, la fabrication de ces bières-là n'emprunte pas ce sacro-saint processus et laisse à la boisson le temps de respirer avant d'être consommée. Mais elle n'est pas pour autant insipide. Au contraire, les amateurs la trouvent très goûteuse. Alors les jeunes veulent que la campagne change sa définition de la vraie bière. Outre l'argument du goût, ils jouent aussi sur l'argument du has-been. Avec 18 pubs en moyenne qui ferment chaque semaine au Royaume-Uni, peut-être est-il temps de prendre en compte le potentiel commercial des bars branchés. Des jeunes se sont donc fendus d'un communiqué dans lequel ils attaquent Camra pour son immobilisme mais aussi pour son sexisme. C'est vrai que certaines bières défendues par la campagne ont des logos ou des pubs franchement limites. En 2012, par exemple, le bar de la Chambre des communes a décidé de ne plus servir la bière Top Totti, dont la réclame mettait en scène une femme en bikini avec des oreilles de lapin. La bière, disent les jeunes, ce n'est évidemment plus un truc de mec, et gare à ce qu'une définition étriquée n'en fasse une boisson de vieux.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors c'est l'un des grands chantiers initiés par le président français au début de son mandat, faire de notre vieil hexagone une start-up nation. La France en fait n'est pas la seule en Europe à vouloir devenir une terre d'innovation. D'autres capitales européennes ambitionnent elles aussi de devenir des métropoles du web, Eve.
Et oui, et d'après le rapport commandé par une autre start-up, la start-up Stripe, l'Europe en la matière se porte même plutôt bien. Elle attire des investissements toujours plus nombreux sur ce marché juteux. Plus 5 milliards d'euros entre 2016 et 2018, un montant qui a doublé en 2 ans.
Et à la tête des pays qui attirent les investissements, on trouve un quatuor difficile à déloger.
Le Royaume-Uni d'abord en première place qui écrase la concurrence avec 70% des investissements. Sur la deuxième marche du podium se trouve la France, juste devant l'Allemagne, mais cela pourrait changer dans les années qui viennent. Car la croissance des investissements semble s'essouffler ces derniers temps au Royaume-Uni, tandis que en France et en Allemagne, elle continue de progresser, au contraire plus 20% par an tout de même.
Bon, bah ça tombe bien, Eve, car les startups font de plus en plus rêver les jeunes Européens.
Oui, autre sondage cette fois-ci, c'est un sondage Ipsos donc qui nous renseigne. En Europe, près de 62% des moins de 35 ans se verraient bien travailler dans une start-up plutôt qu'une entreprise traditionnelle ou une administration. Mieux, une petite moitié, 47% exactement, voudrait carrément monter sa propre structure. Enfin, plus surprenant, un peu moins de 50% de cette génération serait également prête à investir dans cet univers du 21e siècle. Mais bon, pour ça, il faut déjà avoir des sous, des capitaux à investir, ce qui n'est pas donné aux plus jeunes.
Alors ces jeunes qui sont aussi des techno-enthousiastes, si on peut dire, c'est votre vocabulaire en tout cas Eve, ils sont en tout cas plus optimistes que leurs aînés.
Oui, car pour 8 jeunes sur 10, la technologie peut avoir un impact positif sur la société. Parmi les effets positifs cités, les domaines sur lesquels la technologie pourrait agir, ils croient en sa capacité à répondre aux défis de l'emploi, mais aussi de l'éducation et surtout de l'environnement.
Alors, autre renseignement de cette étude, les femmes qui sont de plus en plus nombreuses à vouloir s'engager dans le monde de la tech.
Oui, alors qu'il reste encore largement masculin, rappelons à titre indicatif que seuls 10% des startups sont en France dirigées par des femmes. L'écart semble donc se resserrer un tout petit peu. Elles sont en tout cas plus nombreuses à envisager une carrière dans le secteur, voire même à monter leur propre entreprise.
Alors, il faut quand même le préciser, Eve, même en 2019, la vie à la tête d'une startup est loin d'être un long fleuve tranquille.
Mais pour s'en convaincre, il suffit d'un chiffre. 9 startups sur 10 sont vouées à disparaître avec une durée de vie de 4 ans environ. La première cause de disparition, eh bien, c'est tout simplement le manque de demande des clients auxquels se destinent les nouveaux services. Et puis, le manque de cash, qui était jusqu'ici la seconde cause de disparition, elle tend doucement à disparaître. Tant l'écosystème financier européen de ces entreprises s'est développé ces dernières années. Mais pour continuer à vivre, il faut continuer à grandir tous azimuts pour ces entreprises du 21e siècle. Une jungle comme une autre, finalement, où il faut manger ou être mangé. Avant de se lancer dans la bataille, mieux vaut être prévenu.
Merci Eve Minot et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur notre site et sur Facebook. Rendez-vous demain avec Juliette Rangeval.